Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
La prochaine campagne présidentielle américaine ne bat pas encore son plein, mais il y a un phénomène qui commence à inquiéter sérieusement du côté du locataire de la Maison Blanche, alias Donald Trump, la récession économique. Et si elle survenait dans les prochains mois aux États-Unis, au risque de plomber les chances du président américain. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de vous pencher avec moi sur la santé de la première économie mondiale. Je ne suis pas sûr que Donald Trump connaisse cette chanson de ce petit groupe de rock, Les Civils, mais la crise économique qui menace de toucher les États-Unis dans les prochains mois risque bien de lui enlever l'envie de chanter, à moins d'entonner les paroles du Working Man Blues de Bob Dylan. There's an evening haze settling over town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down. Le blues, les investisseurs en ont eu un petit aperçu au début du mois d'août.
The Dow plunged more than 700 points Wednesday as investors fear an impending US recession and global economic slowdown.
L'actualité économique à présent, c'est ce vent de panique sur les marchés financiers mondiaux. Ce mercredi a marqué la pire journée de l'année pour la bourse de New York. Le Dow Jones, il a perdu plus de 3%. Les bourses européennes, elles aussi, ont fortement reculé.
À Wall Street, l'indice vedette, le S&P 500, a plongé de 6% en une seule semaine. Et il n'a fallu que 3 jours à la Bourse de Paris pour en perdre autant. Dans le même temps, sur les marchés obligataires, les rendements des taux d'intérêt ont chuté, signe de l'inquiétude des investisseurs. Il a suffi que l'on reparle d'un risque de récession aux États-Unis pour qu'une partie des intervenants prenne la poudre d'escampette sous la chaleur estivale. Pourtant, le PIB américain a encore progressé de 2,1% en rythme annuel au deuxième trimestre. C'est moins rapide que les 3,1% enregistrés 3 mois plus tôt. Mais la croissance américaine semble suffisamment solide pour rassurer les investisseurs. Alors que s'est-il passé ? Guillaume Benoît est journaliste au service marché des Échos. Il est spécialiste notamment du marché obligataire. Et on va commencer par le début, Guillaume. C'est quoi une récession ?
Alors Pierrick, pour faire simple, la récession, c'est le ralentissement durable de l'économie dans un pays, dans une région. En fait, il y a pas mal de définitions de ce qu'est la récession, des définitions techniques. Pour faire simple, on va prendre celle de l'INSEE pour la France. C'est quand, pendant 2 trimestres consécutifs, le PIB d'un pays décroît. Alors le PIB, c'est l'ensemble des richesses produites sur la période. Donc voilà, quand il y a 2 trimestres qui se suivent, alors on considère que l'économie est entrée en récession. En quelque sorte, c'est le contraire de la croissance ou de l'expansion.
Pourquoi est-ce que ce spectre ressurgit aujourd'hui ?
Bah oui, c'est vrai que ça peut paraître surprenant parce que, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, l'économie est encore assez florissante. Il y a quand même un contexte un peu particulier de crainte en ce moment sur l'économie mondiale, lié principalement aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. L'idée derrière, c'est qu'on a peur que ça ait un impact très fort sur le commerce mondial et donc après ça sur l'économie mondiale. Donc ça c'est le contexte. Si on en parle plus précisément en ce moment sur les marchés, notamment les marchés financiers, c'est parce qu'on a assisté à un phénomène qui est très rare, qui s'appelle l'inversion de la courbe des taux.
C'est quoi l'inversion de la courbe des taux ? De quoi est-ce qu'on parle ?
Rapidement, la courbe des taux, c'est quoi ? En fait, c'est une courbe qui représente le coût d'emprunt d'un État selon la maturité. Alors, Ça, c'est un peu jargon, ça. Plus précisément, en gros, ça a une courbe qui reflète le prix que paye un emprunt, un État pour se financer à 2 ans, à 10 ans, à 30 ans. Et cette courbe, généralement, elle forme une pente assez simple de gauche à droite qui grimpe parce que c'est moins cher normalement de se financer à 2 ans que de se financer à 10 ans.
Mais parce qu'il y a plus de risques effectivement quand on emprunte à 10 ans que quand on emprunte à 2 ans, notamment pour être remboursé pour quelqu'un qui va prêter son argent. Ça veut dire aujourd'hui que ça rapporte moins de prêter de l'argent à long terme à 10 ans qu'à court terme. Et donc ça paraît quand même aberrant.
Oui, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, maintenant, les États-Unis payent moins cher pour se financer à 10 ans que pour se financer à 2 ans. Donc c'est effectivement un peu aberrant, comme vous le disiez, pour des raisons de sécurité. Ça peut traduire une défiance des investisseurs sur les perspectives économiques des États-Unis pour les 2 années à venir. C'est une première explication. Il faut voir aussi qu'il y a un phénomène qui est important qui a joué, c'est que dans la même période, le taux américain à 10 ans a très fortement baissé. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, il a presque été divisé par 2 et il évolue à peu près à son plus bas historique depuis juillet 2016. Donc il y a à la fois une défiance et à la fois une très forte baisse du taux américain à 10 ans.
Burst of economic optimism here as we see the Dow down more than 700 points just within the past couple of seconds here. The president tweeting out this message saying, "We are winning big time against China. Companies and jobs are fleeing. Prices to us have not gone up and in some cases have come down. China is not our problem," the president says, "though Hong Kong is not helping. Our problem is with the Fed. Raised too much and too fast, now too slow to cut. Spread is way too much, as other countries say thank you to clueless Jay Powell and the Federal Reserve. Germany and many others are playing the game. Crazy inverted yield curve. We should easily be reaping big rewards and gains, and the Fed is holding us back. We will win, capital W, on wins."
Alors dans un tweet dont il a le secret, Donald Trump s'est d'ailleurs inquiété de cette évolution des taux qu'il a qualifié de complètement dingue. Il s'en est d'ailleurs pris au patron de la Banque centrale américaine, lui reprochant d'être paumé, désemparé face à ces taux. Justement, Guillaume, pourquoi est-ce que les taux à 10 ans du Trésor américain, est-ce qu'ils baissent autant?
Alors d'abord, ils ont un statut un peu particulier. Encore une fois, dans un contexte économique qui est compliqué, qui est inquiétant, les investisseurs recherchent des actifs sûrs pour mettre dans leur portefeuille. Or, la dette américaine et particulièrement ses obligations à 10 ans sont considérées comme l'un des actifs les plus sûrs au monde et les plus disponibles parce qu'il y en a beaucoup. Donc, les investisseurs en achètent. Comme ils en achètent beaucoup, la demande est importante, ça fait monter la valeur de ces obligations et en contrepartie, ça fait baisser le taux de ces obligations. Donc, première raison de cette baisse des taux massifs, c'est qu'il y a une très forte demande. Beaucoup de gens achètent de la dette américaine à l'heure actuelle. Il y a une deuxième raison aussi, c'est que quand vous achetez un titre comme ça, vous n'avez pas spécialement envie de voir les taux remonter très vite après, parce que sinon vous perdez de l'argent. Parce que si les taux baissent quand la valeur monte, quand les taux montent, la valeur baisse. Et là aussi, ils sont assez rassurés parce que les grandes banques centrales, à commencer par la Banque centrale américaine, sont elles aussi en train de baisser leurs taux. Donc la Banque centrale a commencé en juillet, on s'attend à une nouvelle baisse en septembre, ça baisse le loyer de l'argent. Globalement, par effet ricochet, ça devrait freiner une remontée des taux. Donc ils ont tout intérêt à le faire et les taux baissent et restent bas.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que la courbe des taux s'est inversée?
Non seulement la dernière fois, mais les dernières fois. C'est-à-dire que si on regarde les 5 dernières fois où ça s'est passé, donc en 78, en 80, en 89, en 2000 et en 2006, il y a eu une récession.
Et une récession derrière?
Une récession derrière, automatiquement. Alors, là, les investisseurs, quand ils voient la courbe des taux qui s'inverse, ils se disent est-ce que le compte à rebours de la prochaine récession n'a pas commencé? Après, il faut tempérer un tout petit peu, la récession n'a pas été immédiate, c'est dans une période de 18 à 24 mois après l'inversion de la courbe des taux que la récession est intervenue. Donc, en fait, il faut bien voir que cette inversion de la courbe, c'est plus un signe avant-coureur qu'un déclencheur. Mais c'est quand même très important pour les marchés.
Ça marche avec les autres courbes de taux en Europe ou au Japon?
C'est pas si simple. Une inversion de la courbe des taux, comme on l'a dit, de toute façon, c'est une mauvaise nouvelle sur l'économie. Ça traduit un manque de confiance dans les perspectives à court terme. Après, si on regarde les différents exemples, par exemple au Japon, depuis 1991, la courbe des taux ne s'est jamais inversée. Et pourtant, le pays enchaîne les récessions sur cette période. Donc là, ça marche pas. À l'inverse, au Royaume-Uni, la courbe des taux s'est inversée plusieurs fois sans que ce soit suivi d'une récession. Donc, d'abord, les États-Unis, il faut voir, c'est la première économie mondiale. Donc, il y a quand même une importance qui fait que le contre-coup d'un ralentissement économique aux États-Unis joue sur le monde. Et puis, ben, il faut bien dire aussi que ce phénomène est tout à fait empirique. C'est-à-dire qu'on a observé que l'inversion avait été suivie par une récession quand c'était aux États-Unis. Donc voilà, c'est un cas vraiment très précis et particulier d'indicateur.
L'inversion de la courbe des taux aux États-Unis serait donc un indicateur précurseur d'une récession économique dans les 12 à 18 mois qui viennent. Cela laisse donc encore un peu de temps. Mais alors, pourquoi les investisseurs s'en sont-ils inquiétés dès cet été? Il faut dire que l'économie américaine connaît sa plus longue période de croissance de son histoire, plus de 122 mois, autrement dit, un peu plus de 10 ans de croissance sans crise. Le record de mars 91 à mars 2001 est battu, et forcément, certains se disent que ça ne va pas durer. À mon retour de vacances, dans ma boîte mail des Échos, une note d'économiste a attiré mon attention. Il y est question d'une phobie de la récession. Elle est signée Bruno Cavalier. Il est chef économiste de Odo BHF. Je suis allé le voir au siège du groupe dans le quartier de la Madeleine à Paris et je lui ai demandé pourquoi est-ce que la récession faisait peur.
Je crois que ça fait peur parce que c'est une situation dans laquelle l'emploi baisse, le chômage monte, les revenus se réduisent, il peut y avoir des difficultés sociales. Donc c'est typiquement la phase du cycle économique qu'on veut éviter.
Vous évoquez un problème, un phénomène psychologique. Est-ce que la récession peut être autoréalisatrice?
Alors je crois que c'est la grande question du moment, et en particulier aux États-Unis, où on a bien vu que durant l'été, une très large partie du commentariat et de la presse a rendu compte de ce risque de récession. Au point même, c'est très anecdotique, mais je pense que c'est intéressant de le noter, qu'on a vu des articles consacré au fait que les recherches Google sur le terme récession s'envolaient. Donc là, on est vraiment en pleine circularité où on parle de récession, les gens n'ont peur, s'intéressent à ce que c'est, et en s'y intéressant, bah forcément, ça alimente le commentaire. Donc je crois que c'est la grande question aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce qu'à force de parler de récession, on risque pas de mettre dans les têtes l'inéluctabilité, si j'ose dire, de ce phénomène. Et si tout le monde se met à penser que c'est inéluctable, eh bien, va ajuster son comportement.
C'est-à-dire moins investir, moins dépenser?
Oui, je crois que c'est ça. La récession, ça se caractérise comment? Une récession, ça se caractérise normalement par une baisse de l'activité économique dans la totalité, ou en tout cas dans la grande majorité des secteurs. Donc c'est pas simplement, on parle pas ici simplement d'une crise dans un secteur. Donc par exemple, on sait qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a un grand marasme industriel. Et même dans certains pays, on peut vraiment parler de récession industrielle. Mais les autres secteurs tiennent. Donc une récession, c'est pas ça. Une récession, c'est vraiment qu'il y ait une baisse de l'activité dans la totalité ou la majorité des secteurs de l'activité économique. Et il faut que ça soit un phénomène durable. Donc il faut que ça dure, je dirais, au moins 6 mois, 1 an. Enfin, c'est un peu ça, la durée standard.
On a vu donc une crainte sur les marchés financiers durant l'été face au phénomène de récession. C'est pas la première fois. Depuis 2016, les investisseurs craignaient déjà une récession économique aux États-Unis. Début 2016, ça avait fait chuter Wall Street. Le prix Nobel Paul Samuelson avait d'ailleurs eu ce bon mot à l'époque. Les marchés boursiers ont prévu 9 des 5 dernières récessions. Est-ce que cette fois-ci, ils ont raison de crier au loup?
Alors d'abord, on peut noter que les marchés d'actions, c'est pas ce qu'ils nous disent cet été. Ils ont quand même plutôt bien tenu. Les marchés financiers qui aujourd'hui envoient un signal très négatif sont plutôt les marchés de taux d'intérêt. Alors pourquoi tant de regards concentrés sur le risque de récession? Peut-être parce que dans les 2 précédents épisodes, en tout cas pour les États-Unis, c'est-à-dire en 2000 et en 2000-2001, disons, et en 2006-2007, une bonne partie des commentateurs, des gourous peut-être même de Wall Street, disaient non, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de récession parce que la situation est peut-être différente. Donc peut-être qu'on paye un peu le contre-coup d'avoir minimisé le risque en 2000-2001, 2006-2007, et aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais comme vous le rappelez très justement, on en parlait déjà beaucoup en 2016, et c'est intéressant de voir tous ceux qui, en 2016, prévoyaient la récession à l'horizon de 12 mois, c'est-à-dire en 2017, elle n'a pas eu lieu. Alors peut-être qu'ils nous disent la même chose aujourd'hui en 2019, et la question de savoir si c'est vraiment aussi inéluctable que ça.
Que disent justement les statistiques économiques aujourd'hui ?
Alors, si on regarde l'économie américaine, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est dans une phase qui est toujours une phase d'expansion. Et c'est une phase d'expansion, il faut bien noter, qui est la plus longue qu'on ait jamais connue depuis, disons, dans l'histoire économique moderne. Donc, disons, faisons commencer ça après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a vraiment des séries historiques qui remontent, disons, jusqu'au début des années 50. Et là, ça fait plus de 10 ans maintenant que l'économie américaine est en phase d'expansion. Et là aussi, je crois que dans l'état d'esprit de beaucoup de gens, il y a cette idée que parce que ça fait tellement longtemps qu'on est en phase d'expansion, bah, il faut en passer par une période de purge. La réalité, c'est qu'on est en une phase d'expansion, c'est-à-dire que l'activité économique progresse, l'emploi progresse, le crédit progresse, les dépenses de consommation progressent. Alors, sur un certain nombre de ces paramètres, le rythme de croissance est souvent un peu plus faible qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an ou 2 ans. Mais ça, on appelle ça un ralentissement. Une récession, je reviens à la définition standard, c'est pas simplement ralentir, c'est baisser. C'est quand l'emploi baisse, c'est quand la consommation baisse, c'est quand l'activité économique baisse, pas simplement lorsqu'elle ralentit. Donc aujourd'hui, on est dans une phase probablement de ralentissement de l'économie américaine depuis un niveau relativement élevé. Donc voilà la situation, la photographie à l'instant T, c'est cette situation.
On dit souvent qu'une croissance finalement ne meurt pas de vieillesse, il faut un choc. Est-ce que vous voyez, vous, quel pourrait être le choc? Est-ce qu'il pourrait venir par exemple du crédit?
Quels sont les différents chocs qu'on a pu connaître dans l'histoire? Il y a des chocs de crédit, comme vous l'évoquez, c'est-à-dire on a eu une période pendant laquelle on a octroyé trop de crédit. Alors ça peut être auprès des ménages. Donc typiquement la récession américaine de 2007, 2008, 2009, c'est parce que on a eu une crise de crédit hypothécaire. Ou ça peut être du crédit aux entreprises. Donc ça c'est plutôt le cas de la récession de 2001. Hein, on était là à la bulle Internet, etc. On regarde le marché du crédit aux États-Unis, il y a quelques poches qui sont clairement en surchauffe, mais je ne crois pas qu'on puisse vraiment comparer ça au choc de crédit qu'on a connu par le passé. Autre type de choc qui fréquemment est à l'origine d'une récession, ce sont les chocs pétroliers. D'ailleurs, subitement, vous avez le prix du pétrole qui s'envole, ce qu'on a connu, par exemple, dans les années 70, ou ce qu'on a connu aussi au moment de la première guerre du Golfe en 90, c'est une ponction sur le revenu des ménages, des entreprises, parce que dans des pays qui sont importateurs de produits pétroliers, la facture s'envole et donc ça peut provoquer une récession. Et il y a même un certain nombre d'économistes américains qui considèrent que la vraie constante dans l'histoire économique moderne des États-Unis, c'est que c'est toujours le pétrole qui provoque la récession. Quelle est la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, le prix du pétrole, en un an, a baissé de l'ordre de 20%. Donc là aussi, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Troisième type de choc qui est fréquemment observé historiquement avant les récessions et qui peut peut-être être le fauteur de récession, c'est lorsque la politique monétaire est très fortement resserré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la banque centrale, en l'occurrence aux États-Unis, la réserve fédérale, augmente ses taux d'intérêt. Elle les augmente très vite. Elle les augmente à des niveaux très élevés, si bien que le coût du crédit s'en ressent. Et donc, ça peut être un élément déclencheur de la crise de crédit qu'on évoquait plus haut. Quelle est la situation aujourd'hui aux États-Unis? Eh bien, du point de vue de la politique monétaire, on a vu une banque centrale qui a commencé fin 2015 à monter ses taux d'intérêt, mais très graduellement, très lentement, en tout cas sans aucun rapport avec les standards historiques passés, qui a commencé à les monter depuis un niveau qui était zéro. Donc là aussi, c'est sans précédent. Donc, quand vous montez les taux en partant de zéro, que vous allez assez lentement, 3 ans plus tard, vous n'êtes pas à un niveau très élevé. Vous n'êtes certainement pas au niveau où on peut dire « c'est très restrictif ». Et ajoutons que ce qui s'est passé cette année, c'est que la Banque centrale américaine a fait un virage à 180 degrés. C'est qu'elle a commencé, au mois de juillet d'ailleurs, à baisser ses taux d'intérêt. Vous voyez que le cadre standard des chocs à l'origine des récessions, que ce soit des chocs de crédit, de bulles de crédit qui explosent, ou de chocs pétroliers, prix du pétrole qui s'envole, ou de resserrement monétaire, le risque, on peut lui donner un nom. Je crois qu'il s'appelle Donald Trump, parce que par ses déclarations, par la manière dont il conduit la politique commerciale américaine, si le terme de politique commerciale d'ailleurs mérite d'être employé en l'occurrence, il fabrique beaucoup d'incertitudes. Et donc on en revient au début de notre discussion sur est-ce que ça peut être autoréalisateur, les gens sont incertains, sont peut-être plus attentistes, étant plus attentistes, ils sont peut-être moins dépensiers, plus prudents, ils reportent leurs dépenses, les entreprises vont reporter leurs embauches, vont reporter leurs investissements, et au bout du compte, ça crée un schéma qui fragilise l'économie américaine. Donc face à ce choc d'incertitude, et je crois qu'on peut vraiment le rattacher en très large partie à l'action, aux déclarations du président américain, la Fed, je dirais, un peu contrainte et forcée, et doit bien s'adapter, parce que, objectivement, si le risque est plus grand, il faut essayer de rendre peut-être les conditions de financement un petit peu plus généreuses.
Sachant que Donald Trump n'est... on va dire, bavard de critiques à l'égard de la politique de la Fed, justement. Il serait, lui, perdant en cas de récession. On l'imagine mal être réélu si l'économie américaine se met à vaciller.
Quand on est président des États-Unis, premier, on a déjà été élu une fois et qu'on s'apprête à mener une campagne de réélection, il est préférable d'avoir une économie américaine qui soit en bonne forme. D'ailleurs, la règle, généralement, c'est d'être élu. C'est-à-dire que le fait d'être élu est un avantage pour être élu. Il y a une exception dans l'histoire récente, c'est celle de Monsieur Bush père, qui a fait un premier mandat et qui n'a pas réussi à être élu, qui a perdu face à Bill Clinton. Pourquoi ? Eh bien, parce que au moment de la campagne électorale, l'économie américaine était tombée en récession. Pourquoi d'ailleurs ? À cause du choc pétrolier provoqué par la première guerre du Golfe. Donc, il est, je crois, absolument clair que Trump ne peut pas désirer une récession. Mais il faut aussi prendre en compte qu'il a l'économie américaine, sans doute, comme je l'ai dit précédemment, ralenti, mais partant d'un bon niveau, se trouve toujours dans une situation plutôt enviable. Troisième paramètre, on voit bien que son mode d'être, son fonctionnement, si on essaie de le rationaliser, c'est quand même de fabriquer de l'instabilité. Avec l'idée, sans doute, que lorsque vous êtes à l'origine de l'instabilité, vous en êtes davantage maître que lorsque vous la subissez. Donc, il est clair que, de mon point de vue d'économiste, que ce que fait Donald Trump n'est pas désirable du point de vue de l'activité économique, contribue à la ralentir, contribue très fortement à accroître l'incertitude et donc le risque. Mais bon, au moment où nous parlons, disons en gros 18 mois après le début de la fameuse guerre commerciale, mettons des guillemets autour de ce terme, l'économie américaine n'est pas par terre et la bourse américaine n'est pas par terre non plus. Elle a connu, rappelons-le, une très forte correction à la fin de l'année dernière, d'une baisse de l'ordre de 20%, ce qui est très fort, ce qui pourrait signaler effectivement un choc sur la richesse propre à provoquer une récession. Mais depuis... Depuis, on est revenu au point de départ. Donc, il joue un jeu assez délicat, sachant que les conditions économiques sont un paramètre dans la campagne électorale, mais ce n'est pas le seul. Et donc, peut-être sur les autres paramètres, il marque des points. Je vous me permettez d'ajouter une chose, puisqu'il y a un dénominateur commun entre la situation économique, la politique commerciale, les différentes déclarations de Trump, c'est la Chine. La Chine, on peut considérer qu'il s'y prend très mal pour rééquilibrer les relations économiques, les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Mais il y a une chose qui est avérée aujourd'hui au travers de différents sondages aux États-Unis, c'est que l'opinion publique, et ce n'est pas simplement les électeurs républicains, la base républicaine, mais c'est très largement partagé dans l'opinion publique américaine, il y a un sentiment anti-chinois qui se développe. En décrivant la Chine comme l'ennemi des États-Unis, il affaiblit l'économie américaine par les mesures sur les tarifs, sur les droits de douane, sur le commerce, mais en même temps, il mobilise ou il touche une certaine corde dans l'électorat américain. Vous voyez que la situation n'est pas aussi simple que ça. C'est pas, il veut être réélu, il faut éviter une récession, donc il va se calmer. Non, je crois que c'est malheureusement beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus mouvant.
Pour la première fois, l'inversion de la courbe des taux mentira-t-elle sur le déclenchement d'une récession ? L'avenir le dira. Mais on peut aussi regarder avec intérêt d'autres signaux sur les perspectives de la croissance américaine, à l'instar par exemple des résultats du groupe de transport FedEx, dont l'activité est sensible à la croissance mondiale. Le groupe s'est inquiété fin juin des risques pour 2020, évoquant une incertitude significative. Mais la presse américaine évoque aussi un autre signe avant-coureur négatif pour la croissance, la forte baisse des livraisons de camping-cars aux États-Unis. En 2007, le marché avait chuté de près de 10% avant de s'effondrer de 54% les deux années suivantes. Merci Guillaume Benoît des Échos pour ce décryptage de la courbe des taux et merci à Bruno Cavalier, économiste chez Odo BHF. La story s'est finie pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Mathias Arignon avec Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des Échos sur toutes les applications de téléchargement. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.